Donc aujourd'hui, nous en sommes à Apocalypse chapitre 10.
Today we're in Revelations chapter 10.
Que je vais lire et je vous demanderai de suivre sur vos Bibles, éventuellement en anglais.
And Max is going to read the passage and please follow along in your mother tongue.
Moi, je vais le lire donc en français.
Tout le passage?
Oui.
Okay, so Max is going to read the whole chapter and please follow along.
Donc Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'était la parole de Dieu. Amen.
This is the word of God. Amen.
Donc avant de commencer directement ce chapitre 10,
so before we jump into chapter 10,
je voulais faire une petite remarque intéressante.
I'd like to begin with noting something.
Alors ce chapitre 10 est un peu particulier en fait dans le sens qu'il interrompt en fait la série des sept trompettes.
Because it interrupts the series of the trumpets.
En effet, la semaine dernière, au chapitre 9,
and last week in chapter 9,
nous étions à la sixième trompette.
We were in the sixth trumpet.
Et le chapitre 10, en fait, aujourd'hui, est une parenthèse avant la septième trompette.
And the chapter 10 is a parenthesis before the next trumpet.
La septième trompette que nous allons voir donc au chapitre suivant.
And the seventh trumpet we're going to look at next week.
Et ce qui est intéressant en fait de remarquer,
and what's interesting to remark here,
c'est que ce procédé d'interruption du récit
is that this procedure of interrupting the this
cette interruption on l'a déjà vue en fait auparavant,
is that we've already seen this type of thing happen.
En fait, il y a quelques semaines en arrière avec l'ouverture des sept sceaux.
And a couple weeks ago, when we were looking at the seven seals,
je pense que vous vous souvenez, c'est le fameux livre scellé que seul l'agneau de Dieu, donc Jésus, pouvait ouvrir.
And when we looked at that in the book that only Jesus could open,
ben nous avons vu que au sixième sceau, il y a eu une interruption aussi du texte.
Or the seals that only Jesus could open, when it got to the one. The sixth, the sixième, yeah, the sixth one, there was an interruption.
Et si vous vous souvenez, bah, c'était une parenthèse concernant un moment de grâce.
And there was an interruption and a moment of grace.
Et donc, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une structure similaire.
And what we see here is a similar structure.
Oh. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire?
And so, what can we say about this?
Alors, en fait, pas grand-chose.
Not a lot.
Sans partir effectivement dans des grandes spéculations sans fin.
Unless you dive deep into speculation and you just swim around in it.
Surtout qu'on verra plus tard au chapitre 16.
Especially when you get to chapter 16.
Il y a l'histoire des fameuses sept coupes.
And there's the seven cups.
Et on remarquera qu'à la sixième coupe, il n'y a pas d'interruption du texte, on passe à la septième.
And you get to the sixth cup and there's no interruption, it just goes right into the seventh.
Peut-être que ça peut simplement nous apprendre à ne pas spéculer sur la parole de Dieu.
And maybe that could teach us to not speculate about the word of God.
De bien rester dans le texte.
To stay in the text.
Et dans le contexte.
And in the context.
Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec le chapitre 10.
And that's exactly what we're going to do in chapter 10.
Où donc j'ai pris le parti de suivre le texte d'une manière linéaire.
Where I chose to look at this in a very linear way.
Alors, j'ai pris aussi le parti de développer surtout quatre points qui sont ici à l'écran.
These are the four points that we're going to look at.
Alors, un premier qui concerne bien sûr l'ange puissant qui apporte le petit livre.
And so the first point is the angel that opens the little book.
Les sept tonnerres.
The seven thunders.
Les expressions il n'y a plus de temps et le mystère de Dieu.
And the symbolism and there's the end of there's no more time and the mystery of God.
Et le quatrième point, bien sûr, le petit livre ouvert.
And the fourth point, the small book is open.
Alors, commençons par le premier point sur l'ange.
And so, let's look at the first point of the angel.
Alors, si on se réfère bien au texte et qu'on regarde les caractéristiques sur cet ange.
And if we look at the first text and the characteristics of the angel.
On apprend donc que c'est un ange puissant.
We see that it's a powerful angel.
Qu'il descend du ciel enveloppé d'une nuée.
Who comes down from heaven wrapped around with a cloud.
Qu'il a au-dessus de la tête un arc-en-ciel.
Who has a rainbow around his head, over his head.
Et que son visage est comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu.
Who has his face is like the sun and his feet are like
colonnes de feu.
His feet are like pillars of fire.
Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est des caractéristiques qui sont normalement des caractéristiques de la manifestation de Dieu.
And we see that these are the characteristics of God.
Des manifestations, pour certaines en tout cas, de la manifestation visible de Dieu envers les hommes.
And these are visible manifestations of God. To mankind.
Par exemple, pour la nuée et les colonnes de feu.
Like with the cloud and the pillar of cloud and pillars of fire.
Ben c'est celle qu'on retrouve dans la présence de Dieu dans l'Exode lors de la sortie du peuple d'Israël.
And that's what we see in Exodus when he manifested himself to the children of God.
On peut le voir justement dans Exode chapitre 13. Versets 21 et 22 je vais lire.
We can see that in Exodus 13, 21 to 22.
Alors l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit.
And the Lord went before them by day in a pillar of cloud and led them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from them before the people.
Mais la nuée aussi, si vous vous souvenez, c'est aussi celle qui accompagne notre Seigneur Jésus pour manifester en fait sa divinité.
And the cloud also was with Jesus to manifest his divinity.
Par exemple, nous l'avons vu au premier chapitre d'Apocalypse.
For example, when we saw the first chapter of Revelations.
Au verset 7 et 8.
In verses 7 and 8.
Où il est écrit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes on the earth, and the and will wail on account of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty.
Quant à l'arc-en-ciel, eh ben nous savons qu'il symbolise l'alliance de Dieu donc avec la création.
And concerning the rainbow, we know that that represents the covenant of God with creation.
Nous découvrons cela dans l'histoire de Noé, en fait.
And we discovered this with the story of Noah.
Où en Genèse 9, verset 13, il est écrit « J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. »
In Genesis 9:13, it says, I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth.
C'est l'arc-en-ciel aussi qu'on retrouve dans la description, en fait, du trône de Dieu.
And it's also the description that we see with the throne of God.
Où on peut le voir effectivement soit dans Ézéchiel chapitre 1 verset 28, mais aussi on l'a vu dans Apocalypse chapitre 4 verset 3 que je vais lire.
Where we saw both in Ezekiel and in Revelations, which is what we're going to read in verses 4-3.
Alors il est écrit celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.
Which says, and he who sat there had the appearance of jasper and a carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald.
Et enfin, donc le visage comme le soleil.
And the face of the sun.
On peut le retrouver donc dans la description du Seigneur, encore une fois, dans Apocalypse chapitre 1. Au verset 16.
You can find it again in Revelations in chapter 1 verse 16.
Où il est écrit, il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Where it says in his right hand he held seven stars, from his mouth came a sharp two-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength.
Voilà, donc si je résume, on a donc ici un ange puissant avec des caractéristiques qui renvoient à Dieu et au Seigneur Jésus.
And so, if I resume this, we see that there's a powerful angel that has all of these characteristics of God, of Jesus.
Mais ce qui est un peu embêtant, en fait, c'est de faire finalement un lien entre l'ange et Jésus. Parce qu'un ange, ben, c'est une créature de Dieu.
But what's a little complicated is making a link between an angel and God, because angels aren't God.
Alors, tout d'abord, il faut savoir, faut faire attention, car en grec et aussi en hébreu, le mot qu'on traduit par ange veut dire aussi messager ou également celui qu'on envoie.
I should have said angels are created beings. And when we look at it in the Greek. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire?
Oui. Donc, en fait, il faut savoir que la traduction du mot ange, que ce soit en grec ou en hébreu.
And so, when you look at the original word for angel, either in Greek or in Hebrew.
En fait, à la base, veut dire le mot messager ou celui qui est envoyé.
Okay. Is either the word for messenger or he who has been sent.
Mais la seconde chose aussi, c'est que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, en tout cas d'après moi, renvoie à Jésus.
And so, I believe that this angel of the Lord looks, points us to Jesus.
C'est pour moi une manifestation de Jésus qu'on appelle Christophanie, en fait, au niveau théologique.
It's a manifestation of Jesus, which in theological terms is called a Christophany.
Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une étude sur ce thème, mais personnellement, je suis convaincu par ça.
And I won't give, you know, turn the study to be about Christophanies, but I believe that this is one.
Pour moi, on a bien affaire à Jésus, et puis je vais vous montrer d'autres arguments un peu plus tard par rapport à ça.
And I'll look deeper into this later.
Voyons un premier.
And so that's the first thing.
Si nous reprenons le texte, au verset 3, on nous dit que lorsqu'il crie, donc cet ange, sa voix est comme celle d'un lion qui rugit.
In verse 3 it says, and called out, so it's speaking of the angel, with a loud voice like a lion roaring.
Et donc ici on reconnaît bien quand même Jésus qui est le lion de la tribu de Juda.
And we know that Jesus is the lion of the tribe of Judah.
Et d'ailleurs à plusieurs reprises dans la Bible on dit aussi que Dieu rugit.
And there's multiple times in the Bible where it says that God roars.
On peut aussi bien le voir dans Jérémie au chapitre 25.
We can see it in Jeremiah 25.
Mais également en Osée chapitre 11 verset 10.
And also in Hosea 11:10.
Où il est écrit, ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer.
Where it says, and they shall go after the Lord, he will roar like a lion, when he roars his children shall come trembling from the west.
Ce qui est important aussi de discerner dans le texte,
and what's important to discern from the text,
c'est que cet ange qui descend du ciel avec toutes ses caractéristiques,
is that when we look at this with all of the characteristics,
il pose ses pieds sur un pied sur la mer et l'autre sur la terre,
is that he puts one foot on the sea and one foot on the ground,
comme s'il affirmait en fait son droit à régner sur toute la création.
As though he's affirming his right to reign over all creation.
Comme si tout lui avait été soumis sous ses pieds.
As though all had been submitted under his authority.
Et nous savons justement que Dieu le Père a mis toutes choses sous les pieds du Seigneur Jésus.
And we know that the Lord had put all under the authority of Jesus.
Justement, en Hébreux chapitre 2, verset 8, il est écrit, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. »
In Hebrews 2:8, it says, putting everything in subjection under his feet. Now in putting everything in subjection to him, he left nothing outside his control. And at present, we do not yet see everything in subjection to him.
Donc bref, avec toutes ces choses que je vous ai exposées, en tout cas moi je suis complètement convaincu que cet ange puissant, c'est Jésus.
And so with all that we've seen, I'm convinced that this is Jesus.
Alors maintenant passons aux sept trompettes.
And so now if we look at the seven
Le sept tonnerres, pardon.
Okay.
Je vais un peu vite.
Okay, the seven thunders.
Alors, donc après que l'ange a rugi comme un lion,
so after the angel roars like a lion,
on nous rapporte que les sept tonnerres font entendre leur voix.
We hear the seven thunders.
Et que Jean est prêt à noter ce que disent les voix.
And so John is ready to write down what is said.
Mais finalement, Dieu lui dit, en fait, lui ordonne de sceller et de ne rien écrire.
And God tells him that he must seal it up and to never say what they said.
Alors ce que on peut tout d'abord remarquer, c'est qu'on dit dans le texte les sept tonnerres.
And what's interesting is that it says the seven thunders.
Et pas juste sept tonnerres.
And not just seven thunders.
On a bien ici en fait dans le texte une forme bien définie.
And this is a very definite amount.
Et ensuite aussi ce que l'on sait, c'est que dans l'Ancien Testament, la voix de Dieu est associée parfois au tonnerre.
And the voice of God is sometimes associated with thunder.
Alors pourquoi le chiffre 7?
And so why the number 7?
Or sûrement une allusion au psaume 29 de David.
And there's the mirroring of Psalm 29 from David.
Où on peut voir que la voix de Dieu se fait entendre sept fois sous la forme du tonnerre.
Where the voice of God is heard in seven times through thunder.
Il faut aussi souligner que très souvent, le tonnerre est l'expression en fait du jugement de Dieu.
And thunder is related to judgment.
Et ça tombe bien puisqu'on est dans l'Apocalypse.
And we are in Revelations, right?
Donc on peut raisonnablement penser que ces voix sont l'expression de Dieu.
And so we can understand that this voice is the expression of God.
Ils sont probablement des jugements.
Probably judgment.
Mais honnêtement, on ne sait pas.
But we don't know.
Car c'est scellé.
Because it's sealed.
C'est-à-dire en fait non révélé.
And meaning that we don't know.
Bref, on peut juste dire que cet épisode des sept tonnerres nous laisse un peu sur notre faim.
And so these seven thunders leave us questioning.
Mais bon, on garde l'espérance que d'en savoir davantage lorsqu'on sera avec le Seigneur Jésus dans la Jérusalem céleste.
But we'll know more when we're with God in heavenly Jerusalem.
Et voilà, pour l'instant, on peut rien dire de plus.
But for now, we can't say anymore.
Donc, si nous reprenons la suite du texte après les sept tonnerres.
But if we follow along in the text after the seven thunders.
On nous dit, si je résume, que l'ange prend la parole.
The angel then takes the continues on.
Et il jure par celui qui vit au siècle et des siècles.
And he swore by him who lives forever and ever.
Et qu'il n'y aurait plus de temps.
That there would be no more delay.
Et que après la septième trompette.
And after the seventh trumpet.
Le mystère de Dieu s'accomplirait.
The mysteries of God would be accomplished.
Comme Dieu l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
As God had prophesied through his prophets in the past.
Alors une question, est-ce qu'un simple ange, même puissant, peut jurer par celui qui est au siècle et des siècles?
So there's a question that arises, is that can an angel, even a powerful angel, swear by he who lives forever and ever?
Alors je pense que la réponse est claire, c'est non.
And I think that the answer is clear, that it's no.
D'où un argument de plus pour penser que cet ange puissant est bien le Seigneur Jésus.
And I think that this is a clear argument that this is Jesus.
Qui lui seul peut se permettre de le faire puisqu'il est Dieu le Fils.
That he alone is allowed to do this because he is God the Son.
Et donc cet ange, ben, comme je viens de le dire, il annonce en fait qu'il n'y aurait plus de temps.
And then he gives this announcement that there will be no more delay.
Et que le mystère de Dieu est prêt à s'accomplir.
And that the mysteries of God are about to happen.
Alors qu'est-ce que ça veut dire?
So what does this mean?
Alors tout d'abord que la fin est proche.
First of all, that the end is near.
Et surtout qu'il faut aller voir en fait dans Apocalypse au chapitre suivant concernant la septième trompette.
And so, first of all, we look at the next chapter, which is the seventh trumpet.
Alors on va un peu tricher, hein, désolé Mike pour le chapitre suivant.
So we're going to cheat a little. So sorry, Mike, for the next digging into the next chapter.
11 au verset 15, il est écrit: le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles.
In Revelations 11:15, it says, then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever.
Amen. Donc ici, on comprend bien que tout d'abord, il n'y aura plus de temps ne veut pas dire que c'est la fin de toute chose.
And so here when we see that the end is near, that it doesn't mean that there will be nothing left.
On n'est pas arrivé au jugement dernier avec ensuite l'éternité.
It doesn't mean that it's the final judgment and yeah.
Non, c'est seulement qu'est venu en fait le temps de l'accomplissement du mystère de Dieu qui consiste à ce que Christ prend possession de son règne terrestre.
And so it means that Christ will take possession of his il prend possession
de son règne terrestre.
Of his earthly reign.
Et d'ailleurs nous savons que ce n'est pas encore la fin.
And we know that it's not yet the end.
De toute chose, puisqu'il reste encore 12 chapitres d'Apocalypse.
It's not the end of everything, and we know this because there's still 12 more chapters of Revelation.
Alors, avec encore des choses comme les 7 coupes de la colère de Dieu.
With things like the 7 cups of the wrath of God.
Ou encore le temps du millénium, etc.
There's still the time of the millennial reign.
Ben ensuite, on arrive maintenant à la fin de notre passage avec l'histoire du fameux petit livre ouvert.
But in this passage, there's still the scroll
que Jean doit dévorer.
That John must eat.
Et qu'on nous dit qu'il a un goût de miel dans la bouche et amer dans ses entrailles.
Which tastes like honey but is bitter in his stomach.
Et on annonce à Jean ben, qu'il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, de langues et de rois.
And they say that John is told that he must prophesy to many nations and peoples all over.
Alors plusieurs choses.
There are many things to be said about this.
La première, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un livre dans l'Apocalypse.
And this isn't the first time that it speaks of a scroll in Revelation.
On l'a vu tout à l'heure. Souvenez-vous qu'au chapitre 5, Dieu est assis sur son trône avec dans sa main un livre scellé.
As it says in Revelation 5 that John speaks of a scroll.
Que personne ne pouvait donc ouvrir si ce n'est l'agneau de Dieu.
That no one could open if it weren't the Lamb of God.
Qui est mort pour nos péchés.
Who died for our sins.
Qui est mort donc à la croix afin que nous soyons sauvés de notre état misérable.
Who died on the cross so that we would be saved from our miserable state.
Et nous sommes simplement sauvés en mettant notre foi en Christ.
We can only be saved by putting our faith in Christ.
Et donc ce livre avait été scellé donc par Dieu.
And so this book had been sealed by God.
Et seul Dieu lui-même pouvait l'ouvrir.
And only God could open it.
Donc seul Jésus, 100% homme et 100% Dieu.
And only Jesus, who's entirely God and entirely man,
était digne d'ouvrir les sceaux de ce livre.
Is worthy to open the seal of this book.
Par contre, le petit livre ici,
but the little scroll here,
ben, il n'est pas scellé.
Was not sealed.
Il est ouvert.
It's open.
Et il est destiné à un homme, Jean.
And it's destined for this man, John,
qui va prophétiser.
Who will prophesy.
Alors, ce sont des paroles de Dieu qui sont mises finalement dans la bouche du prophète.
And this is the word of God that's put into the mouth of the prophet.
Pour annoncer les jugements de Dieu.
To proclaim the judgments of God.
Afin que les hommes qui vont les entendre.
So that people who would hear it.
Se repentissent de leurs fautes et se tournent vers Dieu.
Would repent from their sins and turn towards God.
Et ceci avant la fin de toutes choses.
And this before the end of all things.
Donc ici, c'est Jean que Dieu choisit pour prophétiser jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse.
And this, est-ce que tu peux répéter?
Ici, c'est Jean que Dieu choisit pour qu'il la prophétise jusqu'à la fin de l'Apocalypse.
Merci. And here we see that it's John that God chose so that he would prophesy before the end of Revelation.
La seconde chose, c'est cette histoire, en fait, de doux et amer.
And the second thing is this history, this thing about bitter and sweet.
On a en gros deux interprétations.
And there's two interpretations.
La première, si on prend Ézéchiel au chapitre 2 et 3.
And the first thing is if we look at Ezekiel chapter 2 and 3.
Donc Ézéchiel 2:9 jusqu'à 3:3, donc on peut lire. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel.
Okay. So it's Ezekiel 2:9-3:3. And when I looked, behold, a hand was stretched out to me, and behold, a scroll of a book was in it. And he spread it before me, and I had a writing on the front and on the back, and there were written on it words of lamentation and mourning and woe. And he said to me, Son of man, eat what you find here, eat this scroll, and go and speak to the house of Israel. So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eat. And he said to me, Son of man, feed your belly with this scroll that I give you, and fill your stomach with it. Then I ate, and it was in my mouth as sweet as honey.
Amen. Donc ici, le prophète Ézéchiel donc mange un livre qui est doux comme le miel dans sa bouche.
And so here we see the prophet Ezekiel eating this scroll that's as sweet as honey in his mouth.
Et donc dans cette première interprétation, on peut penser que la douceur vient que la parole de Dieu est toujours une bonne nourriture.
And so here there might be this interpretation that the word of God is always as sweet as honey.
Quoi qu'elle annonce.
Whatever is proclaimed.
Et le côté amer, on peut le deviner ici dans ce texte par ce qui est annoncé, c'est-à-dire des lamentations, des jugements, des plaintes.
And so it could be thought that the bitter side of it is what is proclaimed makes it bitter.
Donc dans cette première interprétation, si je résume, la douceur c'est la parole.
And so to resume this first proclamation, the sweetness comes from the fact that it is the word of God.
Et l'amertume, eh ben, ce sont les jugements terribles qu'elle annonce.
And the bitterness is the terrible judgments that are proclaimed.
Une seconde interprétation serait de penser que le côté doux sont les annonces que Dieu fait concernant les saints, en fait.
And
la seconde interprétation serait de penser que le côté doux.
And so the second interpretation is that the sweet part
sont les annonces que Dieu fait concernant les saints.
I don't know why I'm bugging on that. I'm so sorry. Is the what's said to the saints?
Des bonnes annonces, d'ailleurs, les annonces de grâce.
The good announcements, the proclamations of grace.
Des annonces de bénédiction.
The proclamations of blessing.
Ça peut être aussi notre victoire finale en Christ.
It could also be our final victory in Christ.
Voilà, la vie éternelle.
Eternal life.
Etc.
Etc.
Et le côté amer, pour les jugements terribles pour ceux qui ont rejeté Dieu.
And the bitterness could be for those who reject God.
Donc voilà ce qu'on pouvait en dire d'une manière assez linéaire sur ce chapitre 10 d'Apocalypse.
And this is what we can say from a linear interpretation of chapter 10.
Et en conclusion, si je devais retenir une chose pour moi.
In conclusion, if I had to just pull out something for myself.
Et j'espère aussi pour vous.
And I hope for you as well.
C'est que tout est ici dans ce texte, dans les mains de Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe.
Is that everything lies in the Lord's hands. Nothing passes by him.
Rien ne fait obstacle à ses desseins.
Nothing blocks him either.
Il est le Tout-Puissant. Et tout ce qu'il dit va se réaliser.
For the Almighty, everything that he says will come to pass.
Aussi bien les choses pour la fin des temps, comme dans Apocalypse.
And also for the end of time in Revelation.
Mais aussi toutes les promesses qu'il a pour nous aujourd'hui.
And all of the promises that he has for us today.
Promesses qui sont dans sa parole.
The promises in his word.
Qui doit être notre nourriture pour chaque jour.
Which should be our nourishment for each day.
Prions.
Let's pray.